Alors, parmi les multiples étymologies qui ont été suggérées à propos du terme baroque, il en est une plus communément admise parmi les spécialistes et qui a connu la fortune que l'on sait. Barocco ou barocca désigne en portugais une perle de forme grossière et irrégulière et partant ce qui est insolite ou bizarre. C'est donc sous le signe de cette imperfection toute métaphorique que l'on a pris le parti de caractériser l'un des principaux courants de l'esthétique européenne. Je n'insisterai pas davantage sur ce point qui a été relevé à l'envi. Je me limiterai à souligner qu'a pu dès lors s'installer dans les esprits l'idée implicite selon laquelle l'incongru ou l'inattendu opérait, tant dans l'esprit que dans la forme des réalisations plastiques, une sorte de rupture avec une période antérieure marquée par un certain idéal de perfection, celui de la Renaissance italienne à son apogée, ou même du maniérisme triomphant. Alors ces découpages ou autres tempos traditionnels de l'histoire de l'art, marqués le plus souvent par le rapport dialectique entre la norme et l'exception, ont tout naturellement été mis à l'épreuve. La production artistique que l'on a surdéterminée en la qualifiant de baroque s'inscrit de fait dans une histoire traversée de nuances, voire de contradictions dans les positions théoriques et les partis pris techniques. Et je ne surprendrai personne à ce stade de notre colloque sur la question même d'une imperfection créatrice quand la perfection picturale restait un objectif pleinement valorisé. Je m'emploierai ici à appréhender la peinture comme activité inscrite dans l'ordre social et culturel d'une époque précise, soumise aux questions de la conception et de la réception de l'œuvre d'art. Le contexte d'une Espagne militante engagée dans la défense du catholicisme ne pouvait qu'exacerber ces aspects, justifiant sans doute l'approche archéologique des historiens des images. Par sa qualité d'intermédiaire entre différentes cultures artistiques et par sa revendication farouche du statut de créateur intellectuel, un artiste aussi peu conventionnel que le fut Domenikos Theotokopoulos, plus connu comme Le Greco à partir de son séjour en Italie, présente le cas polémique, mais significatif à mes yeux, d'une pratique assumée de l'imperfection picturale. Et l'une de ses œuvres tardives, sur laquelle nous marquerons une sorte d'arrêt sur image, offre sans doute un terrain de choix pour en aborder une lecture spécifique et condenser peut-être notre réflexion sur le sujet. Mon premier détour n'a pas vraiment pour objectif de répondre à la question du « comment est pensée l'imperfection dans la théorie artistique de l'art ?» dans la théorie de l'art, pardon. Mais plus simplement, et en postulant que l'imperfection a une histoire, comme tendait à le montrer Marie-Dominique Poplar dans sa communication d'ouverture, d'en mettre au jour un certain nombre de traits pertinents. Je relève tout d'abord une sorte d'obsession sociale de l'imperfection. Et je pense que ce point est propre au contexte espagnol. De très nombreux traités de la période, soucieux de dignité professionnelle, proposaient de décliner les qualités, mais aussi les défauts à proscrire, tels qu'ils caractérisaient alors le parfait ministre, le parfait secrétaire, le parfait militaire, le parfait religieux, prédicateur, etc., sous les titres de perfecto ministro, perfecto secretario, perfecto militar, etc. Il ne pouvait manquer, bien sûr, un perfecto pintor, un peintre parfait, comme le titre de Roger de Pile, assimilé naturellement au pintor cristiano, le peintre chrétien, cher à Frédéric Cousinier. Les Dialogos de la Pintura du peintre Vicente Carducho, publié en 1633, insistaient sur la nécessaire maîtrise technique de l'artiste, mais aussi sur un savoir qui dispose celui-ci à juger de ce qui est beau et de ce qui est laid, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Pour aussi admirable qu'elle soit, insiste l'auteur, la représentation peut être imparfaite si elle n'est guidée et éclairée par la science. On retrouve cette glorification toute convenue du peintre érudit comme modèle du peintre parfait dans l'Arte de la Pintura du sévillan Francisco Pacheco, ouvrage rédigé en 1638. L'artiste doit se montrer sensible aux exigences de l'orthodoxie et fidèle à la lettre et à l'esprit, bien sûr, des décrets du Concile de Trente afin d'atteindre, est-il dit, l'ordre suprême des vertus. Le principe de l'imitation doit restituer la convenance des sujets qui est l'âme même de la peinture. Beauté, couleurs et ornements apparaissent dès lors plus accessoires. Et c'est alors le décoro, qu'on pourrait traduire en français par décorum, c'est-à-dire la conformité des sujets à la bienséance et au texte sacré, qui devient le maître mot du discours théorique. Alors, au-delà des normes et des considérations relatives à l'excellence professionnelle du peintre, l'usage même de l'image a nourri un large débat. Le discours mystique, celui de Jean de la Croix, par exemple, manifestait une certaine méfiance à l'endroit des images, même si celles-ci pouvaient être, affirmait-on, le support efficace d'une profonde dévotion. Bien des textes font état de la tentation d'un iconoclasme contemplatif, et Thérèse d'Avila elle-même, dans son Chemin de perfection, privilégie la vision imaginaire comme le médium parfait de l'union mystique avec le divin. Rappelons cependant combien, dans sa dimension toute pragmatique, l'oraison thérésienne fait appel à l'image matérielle. Ainsi écrit-elle, je cite, « Je n'oublierai jamais la petite croix de bois, une image en papier représentant le Christ qui y était collé et inspiré plus de dévotion que si elle eût été chose très bien sculptée. » On a parfois considéré comme une marque de misérabilisme ce regard intérieur sur le Christ, à travers l'image plastique la plus modeste. On peut lire pourtant dans un écrit postérieur de la Sainte la suivante déclaration. « J'avais lu dans un livre que c'est une imperfection d'avoir des images artistiques. Je ne voulais pas garder dans ma cellule celle qui y était. Avant même d'avoir lu cela, il m'avait semblé conforme à la pauvreté de n'avoir que des images de papier. Et je décidai de ne pas en conserver d'autres. Mais lorsque j'y pensais le moins, j'entendis. Ce n'est pas une bonne mortification. Que doit-on préférer ? La pauvreté ou la charité ? Puisque l'amour est préférable, je ne devais renoncer à rien de ce qui l'éveille, ni à faire renoncer mes religieuses, car le livre en question, parlait de l'abondance de moulures et de choses artistiques autour des images, et non de l'image elle-même. Si la perfection est bien de l'ordre du divin, nous dit la sainte d'Avila, encore faut-il dans la fréquentation de l'image sacrée déterminer précisément son lieu et son efficience. Il n'en fallut pas davantage pour que la théorie artistique récupéra le propos de la sainte dans le but d'affirmer ou de réaffirmer l'idéal de perfection de la peinture. Et je renvoie sur la question, bien sûr, au texte de théorie artistique que je citais précédemment. Alors, dans la hiérarchie des perfections plastiques, et au-delà du trompe-l'œil accompli d'un zeuxis, considéré par certains discours rhétoriques comme le modèle insurpassable, occupe une place à part l'image divine, celle censée n'avoir pas été réalisée par la main de l'homme et dite achéiropoïétique. Ces images venues du ciel, œuvres aussi des saints ou des anges, considérées comme miraculeuses, mais aussi comme dispensatrices de miracles, ont eu pour effet de légitimer l'usage même des représentations religieuses dans le débat qui, sur le sujet, opposait alors catholiques et protestants. Parmi de nombreux exemples, je retiendrai ici un dispositif de représentation particulier, celui bien connu du voile de Véronique, qui, selon certaines traditions, garda l'impression d'un portrait du Christ souffrant lorsque la jeune femme entreprit d'essuyer le visage du Sauveur au cours de la montée au calvaire. Cette image du voile prodigieux de Véronique, qui fut un véritable objet de culte, a largement intéressé les artistes et a posé, dans certains cas, le problème de l'illusion d'une figuration miraculeuse dans une sorte de composition cadre à caractère narratif. Le Gréco traite ainsi la question de l'écart entre les deux niveaux d'image, superposant le visage du Christ à la matérialité du voile et non en inscrivant directement celui-ci dans le tissu. Ce décalage, fondé sur une distorsion représentative, à savoir un refus même limité de la vraisemblance, n'a d'autre sens que celui d'exemplifier l'image divine à travers un effet de sublimation comme signe indiscutable du sacré. Le Gréco n'a pas eu l'apanage de ce parti pris, somme toute assez conventionnel, mais il n'est pas indifférent de relever que quelques années plus tard, le sévillan Francisco de Zurbarán adoptera dans sa série des saintes faces un troublant illusionnisme fixant cette fois le visage évanescent dans la trame même de voile faussement fixé, noué ou épinglé sur le châssis du tableau. Dans la fixité du portrait frontal que nous avons ici, l'artiste grec retrouvait sans doute la perfection familière de l'icône. Cette prise en compte du caractère finalement relatif de l'image n'est pas à proprement parler une imperfection, mais engage une mise à distance de l'image parfaite dans le refus significatif du trompe-l'œil naturaliste. L'avancée du portrait du Christ hors de l'espace du tableau est un effet du regard porté par l'artiste sur la fiction de l'image humaine et de l'affirmation, somme toute convenue, du thème classique du Deus Pictor. Alors, contrairement à bon nombre de collègues, le Gréco n'a pas rédigé de traité théorique sur la peinture. On dispose cependant d'un document essentiel pour la compréhension de son art. Ce dernier a copieusement annoté de commentaires manuscrits les marges de deux de ses livres personnels, une édition des Dieci Libri dell'Architettura de Vitruve et un exemplaire des Vite de Vasari. Ces notes, en italien et en espagnol, ont été soigneusement retranscrites et offrent de précieux points de vue sur les idées artistiques du Gréco. Ce dernier soutient que la peinture est objet de spéculation et exprime sa préférence bien connue pour l'allongement des proportions, même s'il rappelle que la beauté parfaite est celle à laquelle on ne peut rien ajouter ni rien retrancher. Il déclare aussi, avec ironie, que le peintre se perfectionne en mourant et que la perfection du jour, c'est la nuit. J'ai aussi relevé une étonnante affirmation qui pourrait constituer, à mon sens en tout cas, une clé interprétative de son œuvre. La pintura no es imperfecta a tratar de lo imposible. La peinture ne saurait être imparfaite quand elle traite de l'impossible. On comprend sans doute mieux cet orgueilleux propos en l'inversant. Lorsqu'elle s'attache au possible, c'est-à-dire à la restitution mimétique du réel, et seulement dans ce cas, la peinture peut être perfectionnée. Sous-entendu, la peinture des abstractions et des concepts n'est en rien concernée. Le Gréco n'a pas toujours été bien compris et a vécu des conflits nombreux avec ses commanditaires. Philippe II, par exemple, a rejeté le magnifique martyr de Saint-Maurice, peint pour le palais de l'Escurial, sans préciser d'ailleurs les raisons de son insatisfaction. Autre exemple, la fameuse réalisation de l'Espolio, la scène de la Passion au cours de laquelle le Christ est dépouillé de sa tunique. Ce tableau fut l'objet de polémiques avec le chapitre de la cathédrale de Tolède. On reprocha à l'artiste, sans doute avec mauvaise foi, hein, si je puis dire, des imperfections iconographiques comme la présence des trois Maries ou le fait d'avoir placé des personnages plus haut que la figure du Christ dans la composition. Alors, plus important, me semble-t-il, sont les jugements contrastés auxquels ont pu donner prise les principes stylistiques si personnels de l'artiste. Je ne procéderai pas à un passage en revue de l'itinéraire critique dont a fait l'objet l'art du Gréco. Sachant que diversement apprécié en son temps, il fut clairement rejeté au XVIIIe siècle et ne fut redécouvert, on le sait, qu'à la fin du XIXe. Parmi les reproches les plus réitérés, je cite, « une manière sèche et désagréable, l'incohérence du dessin, l'incongruité des couleurs. Mais c'est l'allongement des proportions et l'étirement expressif des formes qui surprennent, voire qui exaspèrent. » Un exemple significatif, la fameuse Adoration des bergers du Prado, réalisée vers 1612, en est un exemple évident, puisque l'allongement qui n'échappe à personne ici, des corps, en tout cas des deux bergers qui sont à droite et à gauche de la composition, joue pour celui de gauche d'une vue en plongée et pour celui de droite d'une vue en contre-plongée. Ce qui s'inverse au niveau des deux anges qui sont juste au-dessus d'eux, l'ange de gauche, lui, est vu des sotto in su et celui de droite est vu par-dessus. Donc ces jeux compliqués, aujourd'hui très appréciés, faut bien le dire, exaspérés encore une fois à cette époque. Alors, il s'est trouvé des commentateurs pour chercher des origines pathologiques à ces effets. Un docte spécialiste a conclu que le Gréco était un astigmate atteint de strabisme et que cet inconvénient s'était aggravé avec l'âge. Alors je livre le détail à l'attention, bien sûr, de Clélia. Le spécialiste en voulait pour preuve disait-il, qu'en utilisant des lunettes correctrices, on retrouvait les bonnes proportions. Ce qui est totalement farfelu. La critique, j'entends la critique contemporaine de l'œuvre, retiendra brièvement mon attention. L'artiste crétois fut admiré par le poète le plus polémique et le plus révolutionnaire du siècle d'or espagnol, Luis de Góngora, dont beaucoup moquaient les obscurités et les discordances. Une telle reconnaissance, plutôt rare, mérite ici d'être soulignée. Le discours théorique de Pacheco, de Carducho ou de Giuseppe Martinez, s'il n'est pas totalement négatif, met l'accent sur deux défauts majeurs. D'une part, l'extravagance, à savoir une certaine complaisance dans les sujets et les formes qui s'écartent du goût commun. D'autre part, le caractère inachevé, le non finito de ces tableaux. Pacheco parle à son propos de borrones y bosquejos, de brouillons et d'esquisses. De telles considérations, notamment le reproche d'inachèvement, constituent des critères significatifs pour l'approche de la matière picturale elle-même, ainsi que nous allons le voir. Sans doute l'une des œuvres les plus connues et sûrement l'une des plus appréciées du Greco, le Laocoon reste énigmatique. Aujourd'hui conservée à la National Gallery de Washington, cette toile de grande dimension, 1m37, 1m72, se caractérise par une force visuelle peu commune et s'impose par son énergie formelle. Le déploiement, en apparence désorganisé de ses corps nus à la blancheur spectrale, fait du tableau une création picturale unique en son genre, mais dont le sujet apparaît aisément identifiable. La scène se rattache à un épisode de la guerre de Troie, popularisé par les textes d'Arkinos de Milet, puis de Virgile. Le Troyen Laocoon, prêtre du temple d'Apollon, avait eu deux fils, contrevenant ainsi aux règles du célibat inhérentes à sa fonction. Lorsque les Grecs feignirent de s'enfuir en laissant sur la plage le fameux cheval de bois, ce dernier, Laocoon, mit en garde ses concitoyens troyens contre ce cadeau maléfique. On ne voulut pas l'écouter, et plus encore, deux serpents envoyés par la déesse Athéna, ou peut-être par Poséidon, selon les versions, surgirent alors des profondeurs de la mer pour venir l'étouffer, ainsi que ses enfants, dans d'atroces douleurs. Alors, la découverte à Rome, en 1506, d'un groupe sculpté de la période hellénistique représentant la mort pathétique de Laocoon, aujourd'hui conservé au musée du Vatican, provoqua l'enthousiasme général des artistes et humanistes de l'époque. L'œuvre fut considérée comme l'exemple parfait de la statuaire classique. De multiples gravures diffusèrent alors le modèle sculpté, mais aussi différentes illustrations gravées de l'époque. Le Laocoon, comme sujet d'inspiration, devait devenir, mais bien plus tard, le titre d'un célèbre texte de Lessing, fondamental pour l'histoire de l'art, et j'aurai l'occasion d'y refaire allusion. Il est plus que vraisemblable que le Gréco, qui séjourna plusieurs années à Rome dans les années 1570, avant de s'établir définitivement à Tolède, a pu voir et méditer la fameuse sculpture. Le tableau, le sien, donc j'y reviens, fut réalisé dans la dernière période de la carrière du peintre, entre 1610 et 1614, date de sa mort, sans que l'on en connaisse avec certitude le commanditaire. On ne dispose d'ailleurs d'aucun document le concernant, mais il a été souligné qu'il s'agit là de la seule incursion de l'artiste dans le domaine de la mythologie. Il n'en fallut pas davantage pour que la critique le considérât, avec raison sans doute, comme une œuvre testamentaire, peut-être une sorte de manifeste esthétique de l'artiste. Les inventaires après décès de l'atelier du Gréco font état de plusieurs versions du même thème. Trois Laocoons sont signalés dans celui de 1614 et trois encore dans un autre inventaire de 1621. Mais toutes ces versions ont des dimensions différentes de celles du seul tableau conservé. Ce point invite à penser que l'artiste a réalisé, ou a fait réaliser, comme à son habitude, plusieurs copies d'atelier. L'œuvre aujourd'hui à Washington est donc tenue pour une version inachevée d'un sujet que le Gréco vieillissant aurait particulièrement travaillé. On relève d'emblée que la cité de Troie, à l'arrière-plan, et vers laquelle se dirige le cheval qui va causer sa perte, est en fait une représentation panoramique de Tolède, ville adoptive de l'artiste. Aucun doute sur ce point. Selon certaines traditions, La ville impériale espagnole aurait été fondée par deux Troyens rescapés de l'incendie de Troie. Ses origines mythiques peuvent justifier le parti pris du peintre gréco-tolédan, un hommage donc à la ville qu'il accueillait depuis plus de trois décennies, et un sujet de choix pour un artiste crétois. Cette superposition d'espace a engagé à la recherche d'interprétations internes, je mets des guillemets, et circonstancielles du tableau, sur lesquelles nous reviendrons. Si pour certains la source thématique du tableau apparaît plutôt littéraire, l'inspiration formelle, en particulier la position des corps, est issue, si l'on en croit les recherches de plusieurs spécialistes, de tableaux et gravures précises, comme celle de Jean de Gourmont, que je présente ici. Et sans y insister davantage, le châtiment de Laocoon est simplement concentré sur la partie inférieure gauche du tableau. C'est la disposition des corps que nous retiendrons comme une source d'inspiration possible. Malgré ces possibles emprunts, je maintiendrai, moi, l'idée d'une référence plus ou moins explicite au groupe hellénistique bien connu et placerai volontiers le projet du Gréco dans le jeu du Paragone, cette rivalité convenue entre les excellences comparées de la peinture et de la sculpture. La composition, j'y reviens, déploie et organise la nudité mythologique entre la verticalité des personnages debout et l'horizontalité relative de ceux qui sont couchés. Laocoon et ses enfants sont, comme on dirait aujourd'hui, dégroupés. Les serpents ne les étouffent pas en s'enroulant autour des corps, mais s'apprêtent à mordre le visage du père et le flanc de l'un des fils. Trois temps semblent alors rythmer la figuration, la mort accomplie, le moment effroyable de la fin et la lutte désespérée pour la survie du dernier fils situé à gauche de la composition et qui pousse peut-être une plainte vers le ciel. C'est cependant le couple des deux personnages de droite, extérieurs au châtiment divin, témoins ou commentateurs de la scène, qui constitue un apport original dont la présence reste difficile à expliquer. À travers cet apparent exercice de style, le Gréco réaménage la distribution des figures, au sens presque théâtral du terme, et la complexifie, l'intégrant dans une composition instable, des déformations délibérées, des lignes tendues et des courbes souples, des couleurs qui s'opposent ou se répondent. L'artiste propose ainsi une réinterprétation personnelle d'une tradition iconographique et humaniste. Il convient pourtant de s'arrêter sur une étape où disons une péripétie de l'histoire du tableau. Jusqu'à une époque récente, l'œuvre a été connue sous cette forme. Je n'ai que, hélas, une reproduction en noir et blanc. Elle avait donc subi, comme on le voit, plusieurs correctifs, répondant sans doute à un souci de perfectionnement de l'état dans lequel l'avait laissé l'artiste à sa mort. Je ne saurais préciser ni par qui, ni quand, ni comment. On remarque donc des ajouts de pagnes, cache-sexe, on va dire, ont caché les nudités frontales, jugées indécentes, celle de l'un des fils de Laocoon, le personnage qui est debout, et celle de la femme qui se tient à droite de la composition. On ne saurait s'étonner de ces corrections effectuées au nom de la bienséance, même si, à l'époque, la nudité mythologique pouvait avoir droit de cité. Mais rappelons, dans le même esprit, l'activité de ces braghettoni qui avaient officié dans la chapelle Sixtine pour recouvrir les corps nus de la fresque de Michel-Ange, fresque religieuse dans ce cas-là. D'ailleurs, il semblerait que le Gréco lui-même aurait pu y participer. On avait aussi, je reviens sur le tableau, éliminé dans la partie droite une tête pour ne conserver que celle qui regarde hors du tableau, refusant ainsi l'horreur de la scène. De tels choix et de tels partis pris, déterminent une double imperfection du tableau. L'une, inacceptable, la nudité comme offense à l'ordre moral, l'autre de nature technique, mais tout aussi inconvenante, dès lors qu'elle contrariait la logique représentative en vigueur. C'est en 1956 que l'on a voulu restituer l'état primitif de l'œuvre en éliminant les corrections abusives, l'état dans lequel se trouve le tableau aujourd'hui. Alors, la recherche du sens de l'œuvre a nourri un certain type de discours critique qui tente à enfermer l'œuvre qui tente à l'enfermer, pardon, dans un réseau de conjectures plus ou moins convaincantes. On ne saurait s'en étonner, le Laocoon est une œuvre largement ouverte aux interprétations. Une ambiguïté fondamentale concerne la mort du personnage central. Est-ce le châtiment mérité du pécheur qui a enfreint la règle de la chasteté, ou le sort injuste infligé à un lucide éveilleur de conscience? N'ont pas manqué les interprétations globales et que je qualifierais d'historicistes. J'en signalerai deux, de façon peut-être un peu schématique. Eu égard au contexte de sa réalisation, le tableau serait une dénonciation du régime politique du roi Philippe III, qui avait abandonné le pouvoir entre les mains corrompues de son favori, le duc de Lerma. Plus intéressante peut-être serait la proposition de faire correspondre la figure du prêtre d'Apollon avec celle de Bartolomé Carranza, l'archevêque de Tolède, qui fut en son temps accusé d'hérésie et emprisonné à Rome, où il mourut en 1576. Autour de 1610, s'était fait jour un courant de réhabilitation du personnage qui avait en son temps critiqué un certain formalisme religieux, comme l'avait fait d'une autre manière Laocoon, et avait mis en garde contre certains abus en la matière. Bon, pour étayer ces hypothèses, on s'est employé à réunir des arguments convergents, mais comme on dit, on trouve toujours aisément ce que l'on cherche. L'idée du tableau à clé, a priori séduisante pour l'esprit, a donc conduit à proposer une intelligibilité extérieure au tableau. Elle ne saurait aborder les questions de possibles imperfections techniques, reléguant l'incomplétude formelle à une pure et simple insignifiance. On a pourtant tenté d'identifier les personnages qui, à droite de la composition, assistent à la scène et qui peut-être la commentent. Une certaine logique de situation a engagé à reconnaître dans le couple en question Apollon et Athéna, ou peut-être Antiope, Artémise ou Minerve, mais aussi Poséidon et Cassandre, ou encore Épiméthée et Pandore. Et dès lors qu'on a relevé la présence possible d'une pomme, que l'on voit très mal, dans la main du personnage, Paris et Hélène, ou pourquoi pas Adam et Ève. Le caractère mythologique du tableau s'en trouverait ainsi orienté vers un certain humanisme chrétien, alors en faveur dans l'Espagne du début du XVIIe siècle. Certains détails se prêtent aussi aux hypothèses, tels le cercle que constitue la torsion du serpent s'apprêtant à dévorer, entre guillemets, le fils encore debout, et qui a été vu et lu à travers un emblème d'Alcia, symbolisant l'éternité et laissant à penser que le personnage pourrait avoir, lui, la vie sauve. Il convient de revoir le tableau et d'affirmer, comme cela a été fait, que rien de plus anticlassique que ce tableau d'inspiration classique. L'histoire, en effet, n'a guère d'importance. Le cheval de Troie, qui n'est peut-être pas un cheval de bois, semble trottiner tout seul vers la porte de la cité. Vraisemblance et naturalisme ne semblent pas davantage avoir retenu l'intérêt de l'artiste. Les interprétations externes qui viennent d'être avancées, on l'a vu, ne se révèlent pas non plus pleinement satisfaisantes. L'inachèvement apparent aurait-il été assumé par l'artiste? L'état actuel pourrait-il être une version définitive malgré d'évidentes imperfections? Rien n'est moins sûr, évidemment. Quoi qu'il en soit, l'œuvre mérite d'être reconsidérée ou revue sous cet angle. L'étrange partie droite présente un personnage à deux visages tournés dans des directions opposées. Plus qu'à un classique repentir, on serait enclin à conclure ici à une hésitation de l'artiste. La touche nerveuse qui configure les silhouettes, et notamment les jambes et les bras, comme on le voit, pourrait aller dans le même sens. La critique n'a guère relevé, d'ailleurs, que la main gauche du personnage masculin, pénètre dans l'épaisseur ouatée du nuage. L'idée que ce dernier tiendrait une pomme est pure hypothèse, mais tout semble indiquer que ce couple se trouve, de fait, hors de l'espace dans lequel se déroule la scène. Il s'agirait sans doute de divinités, spectatrices du drame, et dont le regard aurait pour fonction, en redoublant le nôtre en quelque sorte, d'orienter celui-ci vers le lieu important du tableau. Un effet de mise à distance métapicturale, assez fréquent d'ailleurs dans la peinture du Gréco. La partie gauche, elle, n'a pas été commentée. À l'opposé de la saturation des confusions formelles que l'on vient de souligner, c'est ici un espace vide et ténébreux sur lequel se détache le personnage. L'arrière-plan de la ville ne s'y prolonge pas. Cet effet d'interruption n'affecte pas cependant, on le remarque, la représentation du serpent, dont on devine un fragment à la hauteur de la hanche droite, et d'ailleurs même entre les jambes. À ces imperfections, qui affectent les marges latérales de la composition, la droite et la gauche, répondent deux zones traitées de façon abstraite. Le ciel, décomposé en lueurs livides, le sol, fait de roches aux formes tourmentées, parcouru de crevasses et de fractures. Ces espaces naturels sont ici les lieux d'expression des forces ctoniennes et célestes et ajoutent évidemment au dramatisme de l'ensemble. Mais on pourrait reconnaître dans le roc situé sous la jambe droite, de la Haucon, bien sûr, une sorte d'anamorphose, peut-être une tête de mort. Et sous le pied gauche, qu'on ne voit pas ici, mais dans le tableau général, vous voyez, sous le pied gauche, une sorte de casque de soldat antique. Par ailleurs, la position du bout de la queue du serpent occupe une place qui n'est peut-être pas indifférente. Les bordures du tableau concentrent donc inachèvement, écart formel ou figurations incertaines, autant d'imperfections, qui encadrent le sujet essentiel, le nœud du tableau où s'articule l'intelligible et le sensible, et la théorie du centre d'Arnheim dont il a été question trouve ici peut-être sa pertinence, dans le rapprochement bouleversant de la tête de la Haucon, les yeux révulsés, et celle du serpent qui, de fait, nous regarde. L'instant précis de la mort donne lieu à l'expression pathétique de l'effroi, l'effroi de l'humain face à la colère des dieux. Cette dimension du mythe n'avait d'ailleurs pas échappé à certains, comme on le voit ici, à certains graveurs de l'époque. Conclusion. Image qui montre et qui cache, mêlant les vérités et les fictions, le Laocoon ne répond pas à une simple perspective d'édification morale. Le tableau ne saurait non plus se réduire à un projet illustratif de texte littéraire gréco-latin, pas davantage à une démarche mimétique de l'ordre du fameux Paragone dans sa référence à la sculpture, pas même à la proposition naturaliste d'une scène au dramatisme exacerbé. Je l'ai délibérément appréhendé comme une variation sur la perfection et sur l'incomplétude au service d'une réflexion sur la douleur et la beauté, sur la finitude humaine, mais aussi sur le regard qu'un artiste est en mesure de lui porter. L'imperfection nous y concerne de près. Le jeu appuyé des tensions formelles qui organisent l'espace du tableau, celui des regards internes où s'implique celui du spectateur, sont bien des fauteurs de troubles. Et ces signes expressifs semblent n'obéir qu'à la seule contrainte de la nécessité intérieure de la représentation. L'imperfection entre d'une certaine manière dans une modalité qui articule des pratiques et des formes d'intelligibilité et qui, de fait, définit un autre rapport entre l'ordre du faire et l'ordre du voir. Le Laocoon semble alors s'évanouir dans son apparent inachèvement qui, en réalité, l'accomplit. L'interrompu ou le non-clos laisse place assurément au doute ou à l'incertitude, mais force aussi l'intelligible, peut-être plus que sa signification. L'inachèvement, pour citer une proposition d'Alain Belzung, nous convie dans un espace hors de l'objet d'art exposé, hors cheminement, au lieu sans localisation possible d'où provient le regard. Le lieu de l'imperfection est celui de la remise en question de l'organisation signifiante du tableau, où s'articulent le sens et le jugement, pour rappeler un peu l'effet méta-éthique de l'art que soulignait l'autre jour Ronald Schusterman. Ainsi qu'un brouillage évident de la stabilité entre la stabilité du réglage, entre le sensible et le signifié. La possible fécondité de l'imperfection, dont il a été largement question dans notre colloque, engage à réinterroger les codes de la vraisemblance, les frontières du visible, et plus largement sans doute la pragmatique de l'idéalité de la peinture. À ce titre, dans son fameux Laocoon, qui d'ailleurs, et hélas, semble ignorer l'œuvre du Gréco, Lessing devait proclamer, un petit peu plus tard, que la peinture n'est pas un texte ou une poésie en devenir, mais peut et doit se regarder pour elle-même. Sans doute aurait-il pu faire sienne l'affirmation selon laquelle la pintura no es imperfecta al tratar de lo imposible. Je vous remercie.